enfant naquit à Bethléem. Sa naissance fut une date marquante dans l'histoire. Elle introduisit l'ère chrétienne. En quoi cette naissance de Jésus se rapporte-t-elle à l'Ancien Testament ? Au cours de nos études bibliques, nous avons examiné tous les livres de l'Ancien Testament. Et par cette émission, nous allons commencer l'examen du Nouveau Testament, en étudiant les faits essentiels se rapportant à la naissance de Jésus et sa relation avec le plan du Créateur pour la rédemption et le salut de l'humanité. Ces programmes vous sont offerts par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études bibliques et de nos amis de partout.
Merci Thomas. L'Ancien Testament annonce également la venue et l'œuvre d'un grand libérateur, qui est le Messie, et dont l'accomplissement débuta avec la naissance de Jésus. Assurément, l'étude de ces faits fortifiera notre foi. Penses-tu comme moi, Thomas ?
Oh, il n'y a aucun doute, Pierre. Depuis le jour où nos premiers parents furent condamnés à mort jusqu'à Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, Dieu ne cessa de rappeler son intention d'envoyer un libérateur qui sera d'abord un rédempteur, puis un gouverneur, un roi. Mais pendant tout ce temps, l'évidence de l'accomplissement de ses promesses fut vague.
C'est bien vrai, Thomas. C'est le Nouveau Testament qui révèle l'histoire de la venue du Messie promis, car le prophète Ésaïe annonça que le gouvernement reposera sur son épaule et qu'il donnera de l'accroissement à son empire et une paix sans fin.
Pourtant, comme je le comprends, Pierre, Dieu continua à faire des promesses par ceux qui écrivirent le Nouveau Testament.
C'est vrai, Thomas, mais depuis lors, ce furent plus que de simples promesses, car plusieurs prophéties merveilleuses de l'Ancien Testament s'accomplissaient. Oui, quelques-unes des plus merveilleuses promesses de la Bible concernant le royaume de Christ et les bénédictions qui en résulteront pour l'humanité sont contenues dans le Nouveau Testament. Les quatre premiers livres du Nouveau Testament rapportent le récit de la vie et les enseignements de Jésus qui vint pour être le Rédempteur et le Sauveur du monde.
Ce sont les quatre évangiles. Le premier est Matthieu, le second Marc, le troisième Luc, le quatrième Jean. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle et s'applique aux quatre premiers livres du Nouveau Testament, appelés ainsi parce qu'ils présentent la bonne nouvelle de la naissance de Jésus et leurs enseignements révèlent les desseins du Créateur pour la rédemption et la restauration de la race humaine perdue.
Ces quatre évangiles se répètent et je pense, Thomas, qu'au lieu de les étudier séparément, nous allons résumer les quatre témoignages relatifs à la naissance, à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus, et leur rapport avec le plan de Dieu.
À ce sujet, Pierre, Jean et Luc ne révèlent-ils pas que Jésus eut une existence préhumaine en parlant du temps précédant sa naissance ?
C'est vrai, Thomas. Il était nécessaire de démontrer que la vie de Jésus n'était pas contaminée par le péché de la race déchue. Si cela avait été le cas, il n'aurait pas pu racheter le monde.
Pierre, n'est-ce pas Jean-Baptiste qui dit concernant Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».
Oui, Thomas.
Si j'ai bien compris, Jésus n'aurait pas pu enlever le péché du monde si lui-même avait été un pécheur. Je crois que c'est le prophète David qui écrit que personne, c'est-à-dire aucun membre de la race déchue, n'aurait pu racheter son frère ou donner à Dieu une rançon pour lui.
C'est juste, Thomas. C'est pourquoi il était nécessaire que le Rédempteur promis, tout en partageant la nature humaine, n'ait aucune part au péché de l'humanité condamnée. Ainsi, Jean, dans le premier chapitre de son évangile, dit que Jésus avait eu une existence préhumaine, qu'il était le Fils de Dieu avant de venir sur la terre, et qu'il fut fait chair. Malheureusement, la plupart des traducteurs de la Bible présentent incorrectement la pensée de Jean concernant l'existence préhumaine de Jésus, car il donne l'idée que le Créateur et son Fils sont la même personne. Le texte grec montre clairement que le Père et le Fils sont deux êtres séparés, et que c'est le Fils de Dieu qui fut fait chair, afin de pouvoir donner sa chair pour la vie du monde.
Pierre, je crois que Luc donne quelques détails au sujet de la manière par laquelle Jésus fut fait chair. Les chapitres 1 et 2 de Luc nous parlent de la conception miraculeuse de sa mère Marie et de sa naissance. Au premier chapitre de l'évangile de Matthieu, nous trouvons le même récit. Tous les trois, Jean, Luc et Matthieu, confirment le fait que Jésus n'avait pas un père humain et que sa vie ne provenait pas de la race pécheresse et mourante.
Et il est très important, Thomas, que cette vérité fondamentale du plan de Dieu pour la rédemption soit fermement établi.
Oui. Dieu nous a donné un fondement solide sur lequel nous pouvons édifier notre foi. Le récit de la naissance de Jésus rafraîchit et stimule notre foi. Il figure au second chapitre de Luc. Pierre, je pense que tu devrais le lire.
Avec plaisir, Thomas. Il commence au verset 10 et présente l'annonciation faite au berger par un ange. Il dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. »
J'aime ce passage des Écritures. Il est très significatif, particulièrement dans son accord avec les promesses de l'Ancien Testament. L'ange dit « Il vous est né un Sauveur qui est Christ le Seigneur. »
Jusque-là, le peuple de Dieu n'eut que des promesses divines sur lesquelles il pouvait baser sa foi. Mais voici que ces promesses commençaient à se réaliser. Celui que le prophète Michée avait annoncé était né à Bethléem.
Pierre, dans sa prophétie, Michée annonce que la naissance de Jésus serait à Bethléem et dit que son origine remonte aux temps anciens.
Oui, cela veut dire que Jésus eut une existence préhumaine. Nous voyons donc la merveilleuse harmonie qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament et combien leurs récits se complètent.
C'est très vrai, en effet. Pierre, n'est-ce pas Matthieu qui rapporte que le roi Hérode voulait porter atteinte à la vie de Jésus?
Oui, ce projet fut en rapport avec la visite des mages d'Orient, qui apprirent la naissance du roi d'Israël et vinrent pour l'adorer.
Hérode, je crois, prétendit aussi adorer le roi nouveau-né et demanda aux mages de le renseigner sur l'endroit où se trouvait Jésus. Son intention, naturellement, était de faire mourir l'enfant.
Oui, mais sa tentative échoua. Dieu donna l'instruction aux mages de ne pas retourner vers Hérode. Tu sais, Thomas, cette tentative de détruire Jésus est très significative. En étudiant le livre de la Genèse, nous avons appris que Dieu condamna nos premiers parents à mort. Mais il leur dit aussi que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Il explique qu'il y aura inimitié entre sa postérité et celle du serpent. Cette inimitié prédite s'est manifestée à travers tous les âges par des persécutions et des attaques furieuses contre le peuple de Dieu.
Et tu penses que c'est réellement le serpent symbolique ou le diable qui fut l'instigateur du complot pour tuer Jésus?
Oui, son dessein fut de contrecarrer le plan de Dieu qui, par Jésus, veut délivrer l'humanité du règne du péché et de la mort. Satan, le diable, en est l'instigateur principal.
Et si nous réalisons que c'est le diable qui est l'instigateur de la plupart des persécutions contre le peuple de Dieu, nous devrions avoir plus de sympathie pour ceux dont il se sert pour exécuter ses mauvais desseins. Mais Pierre, j'en reviens à la naissance de Jésus. L'ange dit que Jésus sera un sauveur, et aussi le Christ, loin de Dieu.
Il est le Messie de l'Ancien Testament.
C'est cela. Et l'ange annonça que, par sa naissance, il y aurait paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes?
Plusieurs prophéties de l'Ancien Testament se rapportant à la venue du Messie mettent en relief le fait qu'une partie importante de son œuvre sera d'établir la paix sur la terre. Le prophète Ésaïe écrit qu'il donnera de l'accroissement à son gouvernement et une paix sans fin.
Est-ce que cela signifie la paix entre les nations?
Oui, mais la paix que Christ veut donner à toute l'humanité sera plus que la suppression des guerres. Ce sera finalement une paix entre Dieu et les hommes. Lorsque nos premiers parents eurent transgressé la loi divine, ils devinrent étrangers à Dieu, et depuis lors toute la race humaine fut en inimitié contre Dieu. Un moyen a été prévu par Christ qui permettra aux hommes de retrouver la paix avec Dieu. Cette opportunité sera étendue à toute l'humanité pendant le règne de 1000 ans de Christ.
C'est une perspective merveilleuse, Pierre. L'expression « bienveillance envers les hommes » a été modifiée et rendue dans ces temps modernes par « paix parmi les hommes de bonne volonté ». Est-ce bien la pensée exprimée par les anges en annonçant la naissance de Jésus?
Non, Thomas. L'expression « bienveillance envers les hommes » signifie que Dieu a manifesté sa bienveillance envers les hommes par la naissance de Jésus, le Rédempteur et Sauveur du monde, et elle durera jusqu'à ce que toute l'humanité ait eu l'occasion de recevoir les bénédictions de paix et de vie pourvues par le Messie. La naissance et le ministère de Jésus sont traités dans l'article « Le Libérateur vient », qui est le cinquième de la série de l'étude de la Bible, publiée par la revue Aurore. Thomas, voudrais-tu parler de cet article à nos amis ?
Avec plaisir, Pierre. Chers amis, l'article « Le Libérateur vient », publié dans la revue Aurore, examine tous les livres de la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le cinquième article de cette série traite particulièrement de l'existence préhumaine de Jésus, sa naissance, son enfance, son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension, fait particulièrement intéressant de sa vie, révélée par les quatre premiers livres du Nouveau Testament. Voici quelques-unes des questions auxquelles il est répondu dans cet article. Pourquoi Jésus devait-il mourir ? Que voulait dire Jésus en disant que Dieu peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne ? Que voulait dire Jésus lorsqu'il dit au brigand sur la croix « Tu seras avec moi dans le paradis » ? Qu'est-ce que le paradis ? Où sera-t-il et qui y sera avec le brigand ? Que signifie la prière qu'enseigne Jésus « Que ton règne vienne » ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand cette prière sera-t-elle exaucée et quels sont les changements qui surviendront de ce fait dans l'existence humaine? En vertu de quel dessein divin Jésus accomplit-il ses miracles? Quand aura lieu le programme divin d'assainissement universel? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles vous trouverez la réponse dans l'article « Le Libérateur vient ». Demandez un exemplaire gratuit. Demandez l'article « Le Libérateur vient. Il vous sera envoyé gratuitement et franco. Ce programme d'études bibliques vous a été offert par l'Association des étudiants de la Bible Aurore en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.